France Culture.
Le journal est signé Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous. Le PIB des États-Unis a reculé au premier trimestre, mais Donald Trump, au pouvoir depuis 100 jours, en attribue la responsabilité à son prédécesseur. Nous irons à Washington. En Syrie, les violences confessionnelles ont fait une trentaine de morts en deux jours. L'armée israélienne affirme avoir mené une frappe d'avertissement pour protéger la population druze. Noé Pignède nous expliquera la situation. Le Parlement approuve la nomination de Bernard Fontana à la tête d'EDF. Camille Magnard a suivi l'audition du futur PDG et nous précisera ses projets. Et puis la France va-t-elle instaurer le plaidé coupable en matière criminelle? Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, y est favorable. Nous nous pencherons sur cette proposition avec Florence Turm. Donald Trump affichait hier soir une belle autosatisfaction devant ses partisans. Dans le Michigan, le président américain estimait avoir à son actif les 100 jours les plus réussis de l'histoire américaine. Le locataire de la Maison-Blanche est moins souriant aujourd'hui car Wall Street évolue en nette baisse. Le produit intérieur brut, qui mesure la création de richesses nationales, est en recul au premier trimestre, alors que l'économie américaine était encore florissante à la fin de l'an dernier. Et à la suite de cette nouvelle, Sébastien Paour, les marchés financiers accusent le coup.
C'est le département du commerce qui livre ce chiffre qui ne plaît pas à Trump, chiffre corrigé de l'inflation. Le produit intérieur brut américain a reculé de 0,3% au cours des trois premiers mois de l'année. On est très loin de la forte croissance de fin 2024, quand l'économie américaine avait progressé de 2,4%. Les dépenses de consommation ont notamment ralenti avec une croissance annuelle de 1,8% contre 4% à la fin de l'an dernier. Trump met ce revirement spectaculaire sur le dos de son prédécesseur, dans un message sur son réseau Truth Social. Il parle d'un reliquat de Biden qui lui a laissé, dit-il, de mauvaises statistiques. Ça n'a rien à voir avec les droits de douane. Notre pays va décoller, assure encore le président américain. Mais c'est bien sa politique protectionniste et l'incertitude qu'entraînent ces droits de douane qui causent ce ralentissement. Soyez patients, conclut Trump, qui a promis de rendre les États-Unis encore plus riche.
Sébastien Paour à Washington. C'est aujourd'hui que devrait être signé l'accord entre Washington et Kiev sur les minerais ukrainiens. C'est du moins ce qu'affirme un haut responsable de la présidence ukrainienne. Ce projet d'accord est essentiel pour Kiev qui a absolument besoin de conserver le soutien des États-Unis face à la Russie. Mais depuis le début du mandat de Donald Trump, l'Ukraine n'a obtenu aucune garantie de la part du président américain. Écho d'Ukraine sur ses 100 premiers jours de mandat américain avec Isabelle Labéry à Kiev.
Rive gauche du Dniepr, d'immenses barres d'immeubles à la soviétique. Nous avons demandé aux habitants du quartier un mot pour définir le président américain. On nous a répondu menteur, girouette, dissimulateur, entre autres.
On ne sait plus s'il veut vraiment faire quelque chose ou si c'est juste un populiste.
Et vous, alors, votre mot, ce serait quoi ?
Balabol.
Un beau parleur, voilà ce qu'il est.
Yes, balabol.
Ce n'est pas un partenaire fiable.
100 jours pour ces parents qui vont chercher leurs enfants à la crèche ou à l'école, c'est bien assez pour juger le personnage.
Pour moi, il est le pire exemple des politiciens. Des fausses promesses et un mépris absolu du monde, de la morale et de son électorat.
100 jours, c'est bien assez aussi pour comprendre que Donald Trump n'est pas plus capable qu'un autre de raisonner l'agresseur russe.
Ce que j'en pense, pour moi, c'est la déception totale. J'en espérais beaucoup, parce qu'on est fatigué, on a peur, il y a beaucoup de douleur, de désespoir. Malheureusement, il n'est pas à la hauteur de nos attentes. Le politologue Petro Olechouk.
Peut-être qu'il voulait arrêter la guerre, mais en réalité, il l'a prolongée. Avec sa valse hésitation, Trump a montré qu'il était faible. C'est pour ça que Poutine s'est accroché à cette guerre et qu'il veut la continuer.
Ses habitants ne savent plus sur qui compter pour faire appliquer un cessez-le-feu. La nuit dernière, leur pays a été visé par une centaine de drones envoyés depuis la Russie.
Isabelle Labéry à Kiev pour France Culture avec Fabien Gosset à la technique. En Syrie, 16 membres des forces de sécurité ont été tués dans des affrontements. Depuis hier, des heurts entre les forces druzes et des groupes islamistes ont lieu en banlieue de Damas et les forces de sécurité syriennes qui se retrouvent prises entre deux feux tentent de ramener le calme. Elles se déploient près de la capitale. Bonsoir Noé Pignède.
Bonsoir.
À ces violences s'ajoute l'intervention d'Israël qui affirme vouloir protéger la minorité druze.
Oui, tout a commencé hier par un message audio
contenant des insultes envers le prophète, message attribué à un responsable druze et qui est en fait un faux, mais peu importe pour certaines milices islamistes radicales, leurs djihadistes déferlent sur les localités à majorité druze de Sarnaya et Jaramana. Sur cette vidéo diffusée par un des assaillants, on peut voir des hommes lourdement armés, habillés en civil, qui tirent en pleine rue, les combattants druzes qui assurent la sécurité du quartier répliquent, puis les forces de sécurité syriennes s'interposent sans parvenir à ramener le calme. C'est là qu'Israël intervient. Une frappe préventive selon l'armée israélienne qui se dit prête à cibler des objectifs du pouvoir syrien pour protéger la minorité druze, également présente sur son territoire. Mais Israël veut surtout servir ses intérêts selon cette habitante druze de Jaramana jointe par téléphone.
Israël ne veut pas seulement diviser la population, il veut s'accaparer nos terres. Les Israéliens veulent mettre la main sur les régions du sud de la Syrie. Ils instrumentalisent les tensions confessionnelles, comme le régime Assad avant eux.
Israël, dont le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, a déclaré hier vouloir démanteler la Syrie.
Noé Pignade de la rédaction internationale. La période de flottement à la tête d'EDF prend fin. À la mi-journée, les parlementaires ont approuvé la nomination comme PDG de Bernard Fontana, actuel dirigeant de Framatome. Il avait été choisi par l'Élysée en remplacement de Luc Rémont, limogé le mois dernier. Vous avez suivi ce matin les auditions de Bernard Fontana devant les sénateurs, puis les députés Camille Magnard. Au Sénat, il n'a pas obtenu la majorité des suffrages, mais il l'a finalement obtenu grâce à l'Assemblée. Alors dites-nous d'abord, qui est le futur président d'EDF ?
Alors Bernard Fontana, il a 64 ans, c'est un polytechnicien qui a fait toute sa carrière de dirigeant d'entreprise dans la chimie, la sidérurgie, la cimenterie, autant d'industries parmi les plus consommatrices en énergie, avant d'arriver en 2015 dans le giron d'EDF à la tête de Framatome qui fabrique les réacteurs nucléaires. Un profil très marqué industrie, donc proche des entreprises dites électro-intensives qui pèsent lourd dans la clientèle d'EDF, et un profil très marqué nucléaire aussi, au moment où l'État veut faire construire 6 nouveaux réacteurs EPR2 pour une entrée en service autour de 2040. Il l'a même sous-entendu. Les énergies renouvelables, il n'y connaît pas grand-chose. Mais Bernard Fontana promet de prendre sur son temps personnel, il l'a dit, pour se former.
Et sur les grands enjeux du moment pour EDF, quelles sont les positions qu'il défend ? La relance nucléaire notamment ?
Il veut accélérer le bouclage de la conception des réacteurs EPR2 pour la fin de cette année, pour obtenir un feu vert définitif de l'État fin 2026. Il se dit convaincu qu'on peut, en attendant, augmenter la production du parc nucléaire existant, aller au-delà, par exemple, des 60 ans de durée de vie qui sont prévus. Bernard Fontana dit aussi qu'EDF va investir à nouveau dans les barrages hydroélectriques, malgré un blocage depuis des années au niveau européen. Il assure que les projets d'éolien en mer déjà approuvés seront bien réalisés. Et sur la question du coût de l'électricité, il promet que le tarif réglementé pour les particuliers va baisser dès les prochains mois. Il veut aussi réserver aux industries électro-intensives une production annuelle de 40 TWh, soit à peu près 10% de la production nucléaire nationale, à des prix compétitifs sous forme de contrats à long terme. Reste la question du financement de tout ça. Sur le sujet, Bernard Fontana reste assez évasif, comptant apparemment sur la confiance que l'État place en lui et sur sa réputation de cost killer, obsédé par l'optimisation des délais de production.
Bernard Fontana devrait prendre officiellement la tête d'EDF lundi prochain lors de l'Assemblée générale de l'entreprise publique. Merci Camille Magnard. Isidore Partouche, fondateur du groupe de casinos portant son nom, est mort à 94 ans. Né en Algérie française à Trézel en 1931, il a d'abord été radioélectricien, concessionnaire pour Philips. En 1973, tout juste rapatrié d'Algérie, il rachète avec ses frères et sœurs le casino de Saint-Amand-des-Eaux, son établissement thermal et sa source d'eau minérale. Aujourd'hui, le groupe emploie plus de 3500 personnes. C'est le numéro 2 du secteur en France, derrière le groupe Barrière. À partir des années 2000, Isidore Partouche avait progressivement transmis les rênes à son fils Patrick. C'est l'un des principaux fabricants mondiaux de puces électroniques. Confronté à un ralentissement durable de ses activités dans l'automobile et l'industrie, le groupe franco-italien ST Microelectronics avait annoncé la suppression de 2800 emplois dans le monde sur 3 ans. Et bien aujourd'hui, il précise que 1000 postes vont disparaître en France d'ici 2027. Il assure, David Mal, que ces départs seront volontaires.
Lors du CSE central hier, la direction a donc annoncé cette estimation de 1000 départs volontaires. Tout le projet sera mis en œuvre sur la base du volontariat, avec des options de mobilité interne et externe d'ici à fin 2027, écrit la direction dans un communiqué ce matin. Mais à Tours comme à Crolles, en Isère, les craintes sont grandes car devant les représentants du personnel hier, ST Microelectronics a expliqué que le plan de transformation globale allait toucher un quart des effectifs en France, un quart des salariés de ST Microelectronics allaient donc devoir changer de métier, soit via des formations, soit avec des mobilités internes. ST Microelectronics pâtit de la faiblesse du marché automobile et de son retard sur l'intelligence artificielle, mais également d'une crise de gouvernance. La société compte 50 000 salariés dans le monde, 11 500 en France. Dans un communiqué, le syndicat CFDT exprime son inquiétude et juge que la gestion de cette séquence par la direction France manque cruellement de solidité. Fin de citation.
C'est une nouvelle illustration de la crise des enseignes de prêt-à-porter. La marque Jennifer, tournée vers les jeunes adolescentes, est placée en liquidation judiciaire. L'enseigne, fondée en 1984, était tombée en redressement judiciaire en 2023. L'entreprise avait un temps essayé de se relancer via une nouvelle identité de marque, mais selon la direction, l'explosion des coûts, la baisse du pouvoir d'achat, les mutations du marché textile et une concurrence internationale toujours plus agressive ont rendu son modèle économique intenable. Le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire avec poursuite des activités jusqu'au 28 mai. À cette date seront examinées les éventuelles offres de repreneurs. Jennifer emploie un millier de salariés. Les départements ont en charge la protection des enfants à travers les services de l'aide sociale à l'enfance. Mais ces derniers mois, plusieurs départements ont été accusés de graves défaillances. Celui du Nord, récemment épinglé par la commission d'enquête parlementaire. Et aujourd'hui, l'Essonne, les Yvelines et les Bouches-du-Rhône. Les présidents de ces trois départements sont visés par des recours déposés par des familles d'enfants placés. Une information révélée par France Info. Des jeunes filles mineures placées en foyer auraient été victimes de proxénétisme, Gaëlle Joly.
Oui, la vie de Lila bascule en 2018 lorsqu'elle dépose plainte contre son mari pour violence conjugale. Dans la foulée, on lui retire ses deux filles de 8 et 10 ans placées en foyer. Elle est jugée trop fragile. À 13 ans, sa fille aînée multiplie les fugues. Elle se retrouve embarquée dans un réseau de prostitution jusqu'à ce jour d'octobre 2022 où elle est séquestrée par des proxénètes.
Elle envoie un message sur WhatsApp me disant « Maman, je suis en danger, ne m'appelle pas ou ils vont me frapper ». Elle m'envoie une localisation. Donc je préviens les services de police pour récupérer l'enfant. Un cauchemar. Aujourd'hui, elle se fait du mal. Elle est triste, je pense. J'aurais préféré qu'elle soit à ma maison et que tout ça, ça arrive pas.
15 000 mineurs seraient victimes de prostitution en France, en majorité des enfants placés. À Marseille, il n'y a pas un foyer sans prostitution. C'est une éducatrice spécialisée qui l'affirme. Jennifer Habitbol travaille avec les jeunes au quotidien.
Les gamines, à partir de 22h, elles se préparent. Il y en a même qui sortent en string. Il y a les voitures qui défilent avec les plaques. C'est des gamines, hein, on parle de bébés. Hein. C'est pour ça que je suis contre le placement à 100%. Parce que pour placer et faire de la merde pareil, quelle société pour vos enfants, là ?
C'est pour dénoncer l'ampleur du phénomène que Maître Michel Hamas a déposé ses trois recours avec les familles.
Notre État a échoué dans la protection de l'enfance. Le fait qu'il n'y ait pas de réaction, c'est ça que nous dénonçons. Nous livrons les enfants aux chiens.
Le ministère de la Justice reconnaît une situation critique. Il a envoyé une circulaire au procureur pour multiplier les contrôles dans les foyers en début de semaine. Aujourd'hui, ils ne sont effectués que tous les 5 ans.
Gaëlle Joly, après ces révélations de France Info, le département de l'Essonne fait savoir qu'il diligentera une enquête administrative pour connaître et garantir la sécurité des jeunes enfants et apporter toutes les réponses attendues. Il souligne aussi que l'aide sociale à l'enfance est le premier poste budgétaire du département, en constante augmentation pour répondre à une pression croissante, une hausse de 40% en 10 ans. La justice est régulièrement critiquée pour sa lenteur. Comment désengorger les tribunaux et réduire les délais d'attente des jugements ? Eh bien, ce matin, chez nos confrères de France Inter, le ministre de la Justice a lancé un certain nombre de pistes dans la foulée du rapport que lui ont rendu 4 magistrats et un avocat. Bonsoir Florence Turme.
Bonsoir.
Gérald Darmanin veut favoriser la médiation, utiliser l'intelligence artificielle, mais la piste la plus révolutionnaire, pour reprendre les termes du ministre lui-même, ce serait d'encourager le plaidé des coupables en matière criminelle.
Oui, la recommandation figure parmi les pistes proposées par les auteurs du rapport. Le garde des Sceaux la reprend à son compte en s'appuyant sur un constat. Plus de la moitié des gens reconnaissent manifestement, dit-il, le fait d'être l'auteur du crime dont ils sont accusés. Depuis 2004, une procédure similaire existe déjà. La CRPC, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, mais réservée à certains délits. Le mis en cause qui reconnaît les faits se voit proposer une peine par le procureur. C'est donc ce principe que Gérald Darmanin propose de transposer en matière criminelle. Mais ce n'est pas sans risque, estime Benjamin Fiorini, directeur de l'Institut d'études judiciaires de Paris, si l'on se rapporte à l'exemple américain.
En ce qui concerne les accusés, l'expérience américaine montre que c'est une procédure qui génère énormément d'erreurs judiciaires. Il y a énormément de personnes qui reconnaissent leur culpabilité alors qu'en vérité, elles ne sont pas coupables. Un accusé qui serait authentiquement innocent peut très bien être porté à reconnaître sa culpabilité en se disant « je préfère faire 5 ans en ayant l'assurance que ça ne sera que 5 ans plutôt que de prendre le risque de passer 20 ans derrière les barreaux ». En cas de plaidé coupable, il y a un deal entre l'accusé et le procureur. Ce deal va être validé par un juge dans le cadre de ce qu'on appelle une audience d'homologation, où le juge va simplement s'assurer que l'accusé a reconnu sa culpabilité de manière libre et éclairée, sans pression. Et la victime dans tout ça ? Eh bien la victime, elle n'a plus droit à un procès. Et ça paraît particulièrement problématique, surtout dans les affaires de viol.
Des affaires de viol jugées depuis 2023 par des cours criminelles en France, cours composés uniquement de magistrats professionnels, mais la réforme n'a pas produit les effets escomptés. En 5 ans, le nombre d'affaires en attente de jugement a doublé. Ce plaidé coupable, encore au stade, vous l'avez compris, de simples propositions, viserait à réduire le temps d'un procès classique. Les auteurs du rapport préconisent tout de même de le réserver aux faits simples et reconnus, avec une vraie audience qui laisserait justement une place à la partie civile.
Florence Turm, 37 nouveaux sites par lesquels ont transité les archives ont donné droit à des réparations. La CNIR, la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, en a établi la liste qui vient d'être validée par le Premier ministre. Cette commission a été créée par la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la nation envers les harkis, soldats algériens ayant combattu aux côtés de l'armée française durant la guerre d'indépendance. Après la guerre, beaucoup d'entre eux ont été logés dans des camps de fortune avec leurs familles dans des conditions indignes. Bonsoir Anne Fauquemberg.
Bonsoir.
La CNIR a déjà reçu plus de 27 000 dossiers.
Oui, et 6 000 dossiers supplémentaires pourraient arriver sur la table de cette commission avec donc l'entrée de ces 37 nouveaux sites ayant hébergé des harkis entre 1962 et 1975. Parmi ceux-ci, on peut citer les anciens bidonvilles de Nice ou de Perpignan, des foyers Sonacotra à Bourges ou des préfabriqués à Cognac, des structures qui s'ajoutent à une centaine d'autres déjà expertisées par des historiens selon des critères comme la ségrégation scolaire ou encore la précarité du logement. Y avoir séjourné donne droit à des indemnisations, en général 4000 euros pour la première année et 1000 pour les suivantes. Mais au-delà de l'aspect pécunier, ce travail de la commission de reconnaissance et de réparation intègre un travail de mémoire plus large, insiste Françoise Dumas, la présidente de la CNIH.
Lorsqu'on va reconnaître un quart de harkis, il faut aussi savoir que les autres habitants de la commune ou de l'aire en question n'étaient parfois pas tellement au courant de qui vivait là, quel était leur parcours de vie. Donc ce travail de mémoire, il est à faire aussi en le recontextualisant auprès de toute la France, en fait, de tous les Français. Certains étaient tellement mis à l'écart que les autres habitants de la commune ne comprenaient pas et n'avaient pas conscience des manquements de la République. Ça repose aussi les questions, je dirais, qui sont des questions d'actualité. Il faut toujours s'intéresser à ceux qui sont différents de nous et qui sont accueillis sur notre territoire.
La commission a traité jusqu'à présent 70% de ces 27 000 dossiers pour un montant de près de 176 millions d'euros. Une dizaine de sites restent encore à expertiser d'ici 2026 avant la fin de mandat d'Emmanuel Macron qui avait prononcé des excuses historiques aux harkis au nom de la France en 2021.
Anne Fauquemberg, les contrôles de chauffeurs de cars scolaires vont être multipliés de manière inopinée. L'annonce est faite par le ministre des Transports, Philippe Tabarot, 3 mois après un accident ayant provoqué la mort d'une lycéenne à Châteaudun en Eure-et-Loir. Le chauffeur du car avait consommé du cannabis et ce plan vise notamment à renforcer les contrôles de dépistage des stupéfiants sur les chauffeurs. Il prévoit aussi la mise en place d'un stupotest sur les nouveaux cars, Raphaël Ebenstein, sur le modèle des éthylotests.
Garantir le zéro stupéfiant au volant, c'est l'engagement du ministère des Transports à travers plusieurs mesures du plan, dont l'instauration de ce stupotest antidémarrage capable de détecter cannabis, cocaïne ou kétamine sur tous les nouveaux cars en circulation d'ici 4 ans, à l'image des éthylotests obligatoires depuis 2010 dans le transport scolaire. En attendant, les contrôles seront renforcés avec au moins un test salivaire aléatoire par an au sein même des entreprises de transport, mesure que certaines appliquent déjà. Le ministère appuie aussi une proposition de loi dont l'examen est prévu le mois prochain, visant à créer un délit d'homicide routier passible de 7 ans de prison si un conducteur provoque un accident mortel alors qu'il est en état d'ivresse ou sous l'emprise de stupéfiants. Au-delà de ces mesures choc, une campagne de communication sera lancée pour inciter les élèves au port de la ceinture dans les cars, de même qu'un numéro vert pour pouvoir signaler tout comportement anormal d'un chauffeur à bord.
Des records mensuels de température ont été battus aujourd'hui. Demain, le temps restera le plus souvent chaud et ensoleillé, mais le ciel va progressivement se couvrir à l'ouest. Il fera entre 8 et 4 degrés en général au petit matin, entre 22 et 28 l'après-midi, jusqu'à 29 de la Bourgogne à l'Île-de-France.